parler de l'Apple II, il nous fallait un témoin qui non seulement l'a utilisé, mais l'utilise encore. Au sein de l'Apple II Festival France à Auch, nous recevons Antoine Vignaud, alias Logo, archiviste d'Apple II, développeur au sein du groupe Brutal Deluxe, consultant informatique dans le civil et comique en nerd. CPU, carré et petit utile. Antoine, comment tu as découvert l'Apple II ?
J'ai découvert l'Apple II en 1983 au bureau de papa à Toulouse. Et j'ai... Comme pas mal en fait. Oui, parce que comme ça a été dit en introduction, ce matériel était quand même assez onéreux et on l'avait plutôt en entreprise. Et j'ai découvert des jeux parce que des amis de mon frère et des amis de mon frère avaient des disquettes que l'on s'échangeait déjà et on jouait à des jeux comme Santa Paravia, ce qui est l'un de mes premiers souvenirs de l'Apple II.
Vous les échangez, on était en 83, donc il y a prescription. La première loi contre le piratage informatique, c'était en 85. Et du coup, c'est un ordinateur que vous aviez dans la maison ?
Alors, de 83 à 84, il était au bureau, on avait le droit d'aller le voir pendant le week-end. En 84-85, il venait pendant les vacances avec nous. Et à partir de 85, comme les Apple II avaient été remplacés par des Mac, on avait le droit d'en avoir un à la maison à l'année. Mais l'utilisation était déterminée par les résultats scolaires.
Ah, c'est d'où le rapport avec les années scolaires, d'accord, depuis tout à l'heure. Du coup, tu faisais tourner surtout quel logiciel dessus, des jeux ou des utilitaires ?
Alors, majoritairement, à 99,9%, c'était des jeux. J'étais joueur avant tout et il faut savoir qu'Apple fournissait beaucoup de documentation technique avec les codes sources du firmware et autres à l'intérieur. Et je trouvais ça très intéressant et j'étais curieux et je me suis amusé à recopier certains programmes pour essayer de comprendre le fonctionnement et l'équivalent de l'affichage du Hello World que j'avais fait en 84-85 quand j'avais 10-11 ans. C'était une grande joie, une grande satisfaction pour moi.
Ça, je veux bien le croire. C'était la version cassette ou disquette ? C'était le 2E ou les ceux avant ?
Alors, c'était le 2E de 83, donc c'est-à-dire plutôt les Enhanced, ceux avec un microprocesseur 6502. Je n'ai pas connu les Apple II avant ça et je n'ai pas connu les cassettes, mais je me suis bien rattrapé depuis, j'en parlerai après.
La Logitech était absolument énorme. J'ai lu que la Logitech PC ne l'a dépassé en nombre que bien après, je crois que vers 86-87, on m'a dit.
Oui, c'est exact. En fait, il faut savoir que l'Apple II était le premier ordinateur à être vraiment démocratisé, même si c'était un peu élitiste. Et il a permis à un grand nombre de personnes dans le monde éducatif de sortir un certain grand nombre de logiciels, à des sociétés de faire des logiciels dits du domaine public et contre une rétribution financière d'une dizaine de dollars par mois ou par disquette plutôt, on avait la possibilité de récupérer des logiciels. Donc tout le monde était en fait programmeur, éditeur et beaucoup d'indépendants se sont mis en fait ont monté leur société d'édition de logiciels et certaines sont devenues très grosses comme les Electronic Arts ou Activision qui sont des boîtes qui existent encore.
Donc il a été acheté originellement pour être un outil de bureau. Est-ce que tu as un petit peu bricolé avec les utilitaires à l'époque, les traitements de texte, les tableurs et tout ça ?
Oui, c'est une machine qui me servait pour faire mes devoirs scolaires.
Donc ça veut dire que tu avais l'imprimante à côté ?
En fait, j'ai eu droit à deux lecteurs de disquettes d'entrée de jeu, j'ai droit à une carte d'extension mémoire très rapidement et j'ai eu droit à un disque dur de 5 ou 10 mégas
en
1985. Oui, c'est un grand luxe. Avec le recul, je me rends compte que c'est un vraiment très très grand luxe. Bon, c'est pas pour autant que je l'utilisais parce que je savais pas à quoi ça servait, surtout quand tu voulais démarrer une disquette de Shoplifter par exemple. C'était pas très utile, mais ça restait quand même du matériel élitiste, oui.
Du coup, l'imprimante, le droit de s'en servir après 2h du matin ?
Non, parce que c'est vrai que les imprimantes étaient bruyantes. On avait eu droit à une Image Writer 2, je crois qu'elle est sortie en 86 peut-être, et 85-86.
Du très bon matos, mais alors la symphonie à aiguilles.
Oui, et pour imprimer du texte en fait brut, alors que ça faisait du pseudographique dessus, c'était quand même pas terrible. Et je me souviens de devoirs que j'avais écrits sur traitement de texte Apple Works et que je sortais sur l'imprimante, et ça prenait quand même un peu de temps. C'est très moderne et c'était très amusant parce que c'était finalement assez mal accepté parce que tout le monde avait l'habitude de sortir ça sur des feuilles de papier normales, grands carreaux et grandes feuilles, tandis que moi je sortais ça sur depuis l'informatique, voilà.
Déjà au correcteur orthographique, parce que je sais qu'il y en avait d'ailleurs, des 83 en français.
Oui, il y en avait. C'était les spelling checkers. Et mais bon, j'ai pas de souci en orthographe ni en grammaire, donc en fait, je les désactive. Mais ça, pour la petite anecdote, il y avait beaucoup de logiciels de traitement de texte qui étaient sortis et très peu en français. Donc une de mes amies qui s'appelle Madeleine Audet a sorti un logiciel qui s'appelle Gribouille parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait aucun qui gérait la césure correctement en français. Mais c'est vrai qu'en anglais ou en français, on ne la gère pas de la même manière.
Oui, la typographie, les règles typographiques étant
différentes. Oui, c'est ça. Quand est-ce que l'on coupe un mot, qu'on met le trait d'union, etc. Et donc, elle a écrit Gribouille en 85 et elle l'a édité en suivant les recommandations d'Apple, parce qu'elle trouvait qu'Apple Writer 2 de Paul Lutus, si mes souvenirs sont bons, édité par Apple, ne gérait pas la césure correctement.
Et les feuilles de calcul elles-mêmes, ça vous a intéressé il y a...
Assez peu. En fait, ça me servait pour une seule chose, les feuilles de calcul, c'est pour enregistrer les disquettes que j'avais, le numéro de la disquette copiée, ce qui était contenu sur la face A et sur la face 2. Et c'est une disquette, quoi. C'est un format Apple Works que l'on utilise, que j'utilisais. J'enregistrais ça sur une disquette que j'ai changé avec d'autres amis pour savoir quel logiciel il me manquait.
Voilà. Forcément. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Antoine Vignaud pour parler de l'Apple II au sein de l'Apple II Festival France de nos amis de Silicium. Antoine, quelle était la configuration matérielle de ta machine? En soi, tu as dit que tu avais un disque dur, tu avais deux lecteurs disquettes, il y avait une carte d'extension mémoire?
J'avais une carte d'extension mémoire. Au début, on avait une carte d'extension mémoire 64 kg qui était celle d'Apple. Et j'avais fait acheter par papa une carte d'extension mémoire 1 méga qui était disponible chez Quality Computers. Je ne me rappelle pas le prix. Oui, j'avais 1 méga sur mon Apple IIe.
Année
1986, je pense. Et ça me servait pour Apple Works parce que pour le reste, ça ne me servait à rien.
Parce que les PC, il y avait que des PC AT très haut de gamme qui avaient un méga.
Oui, probablement. Énorme. Je ne sais pas comment papa l'avait acheté ou autre, mais je me souviens où c'est moi qui avais dû travailler un été comme d'habitude pour pouvoir m'acheter du matériel Apple II derrière. Et mais je me souviens de cette carte-là, oui.
Il y avait aussi plein d'accessoires de jeux qui étaient quand même assez novateurs pour l'écran. Bon, le paddle, ça c'est un classique, mais il y avait des joysticks analogiques. Et tout ça.
Mais il y avait pas que ça. Ce qui est assez amusant en fait dans le monde de l'informatique Apple II, c'est que ça était le début de la micro-informatique personnelle. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient très curieux, ingénieurs et qui ont inventé un nombre de produits incalculables. Donc il y avait aussi des interfaces en 3D, il y avait des tablettes graphiques sur la partie entrée-sortie. Vous aviez un all-in-one, ça s'appelait Party Game, si mes souvenirs sont bons, et c'était 4 boutons poussoirs. On pouvait jouer jusqu'à 4 et c'est un peu comme une famille en or ou un autre jeu de ce type là et chacun pouvait appuyer
un buzzer, 4 buzzers
et on pouvait jouer ensemble sur ça. Vous avez eu aussi sur le marché de l'éducation un certain nombre de périphériques d'entrée type clavier un peu évolué comme les Muppet Learning Keyboard et autres qui permettaient à une population à mobilité plus restreinte de pouvoir utiliser des touches plus larges ou autres. C'est le marché du périphérique Apple II était extraordinairement large.
Elle est très riche par rapport à ce qui a existé par la suite. La machine était complètement extensible. C'est d'ailleurs assez fou ce qu'on pouvait y faire dessus. Mais en soit, quelles en étaient les limites? C'était quoi principalement? Le nombre de ports, la documentation dont, je suppose
Les limites, c'était l'imagination de l'utilisateur, pour faire la phrase bateau. La limite était quoi? Probablement son bus à 1 MHz, mais il faut se replacer dans le contexte. Qu'est-ce qu'il y avait en face? On pouvait, en fait, au travers de ces cartes d'extension, gérer toutes les entrées-sorties que l'on voulait, n'importe quel type de périphérique. On pouvait brancher en Indus, on pouvait se connecter, gérer des lignes de prod. On pouvait tout faire avec un Apple II. À partir du moment où on savait gérer une entrée ou gérer une sortie, vous pouviez gérer votre maison avec du protocole X10, allumer les lumières, les éteindre, allumer votre station météo, téléphoner, etc. C'était assez fabuleux.
Du coup, ces cartes d'extension, elles marchaient sans problème? On les insérait directement ou il y avait des incompatibilités? Il fallait mettre des drivers? Alors, il y avait des jumpers comme on le faisait à l'époque sur PC ou ce genre de choses?
Alors, il y avait effectivement un certain nombre de cartes qui étaient non pas incompatibles entre elles, mais qui étaient plus difficiles à mettre en œuvre ou à comprendre. Le mode d'emploi, qui était assez amusant à lire, de 80 à 90 pages, vous expliquez tous ces jumpers pour changer les baudes, pour dire je suis dans quel slot, etc. il y avait beaucoup de choses. Le driver, c'est assez rare dans le sens où la carte est autoporteuse, mais sans documentation,
ce n'est pas... Autoporteuse, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'installer un logiciel pour la piloter dans le système d'exploitation. Mais il fallait quand même pouvoir la piloter. Donc, c'était plus un driver logiciel intégré au système de disquettes fournies par l'éditeur. Et en dehors de ça, on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire, si vous avez une carte vidéo qui offrait des capacités plus puissante que le standard Apple II, par définition ou par défaut, l'Apple II n'allait pas en profiter, sauf si vous programmiez pour la carte. Donc il y avait quand même du boulot derrière, et sans mode d'emploi, avoir une jolie carte qui fait papa-maman, gestion de sprite par exemple, sans la doc, la carte ne servait à rien.
Oui, ça aurait été un petit peu dommage. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce matériel spécifique et tout ça ?
Assez rapidement en fait, dans le sens où j'avais la capacité, la possibilité plutôt d'avoir pu acheter des cartes d'extension, mais je suis plutôt un homme de soft, je suis plutôt un softeux, donc moi je m'intéressais plus au logiciel et au fonctionnement du logiciel. Et après, plus que le fonctionnement du logiciel, c'est comment copier le logiciel. Et voilà, c'est la curiosité intellectuelle derrière, de l'underground en fait, et c'est plutôt là où je me suis spécialisé depuis quelques années.
La programmation récente, c'est en général, c'est pour vous, votre cercle proche, votre club de copains ou plus une communauté plus large ?
Alors c'est d'abord, en premier lieu, personnel. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les documentations Apple fournies étaient super intéressantes et je ne comprenais rien du tout de ce qui était écrit sur les papiers avec des mnémoniques, des mots, des opcodes, des choses comme ça, quoi, des termes totalement abscons. Et de fil en aiguille, j'ai fini par acheter des livres, comprendre le microprocesseur de l'Apple II et avec les documentations Apple, les disquettes que j'avais, j'ai fini par comprendre comment le lecteur fonctionnait, comment on pouvait copier des disquettes, imprimer un Hello World, être maître du monde, etc. Et après, faut savoir qu'on avait la chance en France d'avoir, mais c'était quelques années plus tard, le Minitel. Et le Minitel a été un très bon moyen de communiquer et d'échanger entre nous, entre spécialistes de logiciels pédagogiques, comme on dit, et de pouvoir échanger son savoir-faire et sa Logitech. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier Zardini, avec lequel on a fondé Bretelles de Luxe, et rencontré un certain nombre de personnes qui sont présentes à l'Apple II Festival France, sans rendre compte que 30 ans après, finalement, on met un visage sur un nom ou un pseudonyme d'une personne qu'on a rencontrée il y a 30 ans. Quoi.
Tu as tenté d'un petit peu titiller les modes vidéo de l'Apple II. Moi, j'ai un souvenir ému du mode iRise. Oula, c'était...
compliqué. Oh.
J'ai découvert l'overdose d'aspirine à cette occasion.
Et c'est ça qui est amusant en fait avec l'Apple II, c'est que la machine en soi est très ouverte, mais quand on regarde le fonctionnement, elle est quand même très compliquée. Le mode entrelacé vidéo, le texte, etc. Et c'est ça qui est amusant, c'est d'essayer de dépasser les limites de la machine. Alors moi, je ne suis pas demo maker, je ne sais pas afficher du texte en même temps que de la haute résolution, que de la basse, et de faire tourner un écran comme changer la résolution graphique comme peut le faire French Touch par exemple, ou comme peut le faire Fenari Narsa récemment sur sa démo Lightcomer. Mais arriver à développer un logiciel qui permet d'exploiter les capacités de certains composants de l'Apple II, le mode vidéo, les deux pages graphiques, faire des animations sans flickering comme on dit, sont plutôt maîtrisés par mon humble personne.
Puisque tu as parlé quand même de ce groupe de développeurs qui s'appelle Bretelles de Luxe, donc en fait, quel est l'objectif de ce collectif ? Combien vous êtes et quelles sont les principales productions que vous faites dessus ?
Alors Bretelles de Luxe, c'est un groupe qui a été fondé au début des années 90 par Olivier Zardini et moi-même. Olivier et moi étions bordelais, on s'est rencontrés je pense par RTL ou par la proximité.
36-15 RTL.
Oui, voilà, 36-15 et 14, etc. Nous étions voisins, Olivier était en fac à l'université informatique, en fac d'informatique. Moi, je sais pas, je devais passer le bac, probablement. Ouais, je pense que je passais le bac. Et on avait la même machine, et on a envie de programmer dessus. En fait, moi, je venais de faire quelques routines. Olivier aussi, tant qu'à faire, la proximité jouant, On s'est vu et on s'est dit, bah tiens, on va développer quelques logiciels. Et on avait la chance d'avoir à Bordeaux la société Callisto de Nicolas Gaume, la Trade Concept & Co. On l'a reçu l'Apple de Festival France cette année. Et Olivier était très bon ami avec les différents salariés ou freelance de Callisto. Ce qui fait qu'on a récupéré tous les graphes, les sons et choses comme ça d'un certain nombre de jeux de Callisto, comme The Tinies, Cogito. Et Cogito, qui est un logiciel de Rubik's Cube en 2D, de Jérôme Créteau. Jérôme Créteau, pour l'anecdote, c'est un ancien de l'Apple II de la société Excalibur Software. Et c'est très amusant parce qu'on se rend compte que tous les gens que l'on a vus au fil de notre vie informatique, Apple II ou autre, sont des personnes qui viennent de l'Apple II. Et donc, c'est plus facile de créer des liens ou autre. Donc, on a adapté, en fait... en mode freelance gratuit, les premiers logiciels de Callisto et qu'on a distribué gratuitement parce qu'il n'y avait strictement plus de marché pour l'Apple II.
Donc on parle quand même du début années 90. À l'époque, oui. les groupes de demo makers, les groupes de dev, on les a. Enfin, on en a encore quelques-uns sur Commodore 64, mais c'est plutôt Atari, Amiga, beaucoup de gens qui passent sur PC, quasiment rien sur Mac, on se demande pourquoi. Mais pourquoi cette spécificité finalement ? Pourquoi être resté sur ces machines-là ?
C'est la passion de la machine, le fait que Olivier et moi avions découvert l'Apple II il y a très longtemps. Connaissions les limitations des machines et c'est ça qui est très amusant, c'est de se rendre compte que le marché a été abandonné par beaucoup d'éditeurs en se disant mais l'Apple II ça ne sert plus à rien, de toute façon un, il n'y a plus de marché, ce qui est vrai, mais deux, les capacités de la machine sont tellement limitées qu'on ne pourra rien adapter dessus, pour rien plus faire de logiciels modernes. Et on se rend compte au travers des réalisations que l'on a faites, Tinies, Cogito, puis quelques années plus tard Olivier qui a écrit Lemmings, qui est quand même le jeu de Psygnosis qui était sur toutes les plateformes, mais ça tombe très bien sur un Apple IIgs. Donc à partir du moment où on a les capacités, on a les outils de développement et de la passion, voire être payé pour le faire, ce qui n'a jamais été notre cas, on peut réaliser de très bons logiciels sur Apple IIgs. L'exemple parfait, c'est Rastan de John Brooks. John Brooks est un développeur du monde informatique depuis de très nombreuses années, qui travaille encore sur les consoles modernes et autres, et qui a réalisé Rastan tout seul dans son coin. Il l'a proposé à Taito au début des années, à la fin des années 80, début 90, et donc sans support, sans aucune aide, sans rien, il a tout fait à la main. Donc c'était une histoire de passion aussi.
Le processeur 65002 de MOS, Wozniak le découvre en 75. Ça va être un processeur qui va être énormément utilisé dans l'informatique et un peu partout. C'était le processeur qui a été utilisé dans les claviers de PC, si je me trompe. Donc il a une existence d'ailleurs qui continue encore par la plupart des émulateurs.
Et plus que ça, il était vendu à des millions d'exemplaires aussi sur un système embarqué, effectivement, sur beaucoup de choses, parce qu'il consommait peu, il était très simple d'accès. Et en entrée-sortie, il était très bon. Donc c'est vrai, le clavier et plein d'autres choses, les alarmes et autres.
Quitte à connaître l'assembleur, ça ne vous a pas intéressé d'aller voir les autres implémentations hardware ?
De microprocesseurs ? J'ai essayé.
Sur celui-ci, quoi, justement. Parce que si je me trompe, on le retrouve dans le Commodore 64.
Oui. C'est vrai, Oui, mais c'est toujours pareil. Moi, je suis un peu monomaniaque. Quand j'ai deux passions, c'est OSS 117 et l'Apple II. Et l'Apple II, c'est un 6502, c'est vrai, mais c'est de l'Apple II avant tout. C'est pas uniquement le microprocesseur. J'ai essayé de faire du Z80, c'est amusant à lire. J'ai jamais fait de 68000, mais il y a de bons processeurs ailleurs. Il y a de belles implémentations avec le PROS, c'est vrai, mais ça reste pas un Apple II et il n'y a pas les limitations de l'Apple II, ce qui est encore plus fun.
D'accord, oui, bah encore une fois, c'est limitations qui plaisent énormément. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Antoine Vignot pour parler de l'Apple II au sein de l'Apple II Festival France, organisé par nos amis de Silicium. Antoine, quand finalement tu as quitté l'Apple II, et surtout, pour qui ?
Pour ma femme. Je l'avoue.
C'était pas pour un ordinateur, c'était pour votre femme.
C'était pour ma femme. Ma femme m'a dit, ma future femme m'a dit, c'est lui ou moi. Et je l'ai choisi.
Aïe.
Voilà, c'était. Mes Apple II m'ont suivi jusqu'en 2002, peut-être, quelque chose comme ça. Et à un moment, Non, je me suis marié en 2000, donc c'est pas possible. Donc 98, peut-être.
Ah voilà. Oui, quand même, ça fait une longue période d'origine, quoi. Oh. Quelle machine tu as eue à côté et par la suite ?
Alors, après l'Apple IIe, j'ai eu un Apple IIgs. J'ai travaillé pendant un été, je me le suis offert. Après l'Apple 2GS, j'ai acheté un PC, un PC Shark. Shark, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un constructeur français qui voulait faire aussi bien que Dell, faire de la vente par correspondance avec des prix vraiment défiant toute concurrence. C'est très intéressant et je l'ai fait évoluer pour mettre une carte mère biprocesseur pour pouvoir faire tourner BIOS parce que j'étais un grand fan de BIOS, j'adorais l'OS, l'interface était super.
On revient à l'Apple 2 puisque le fondateur d'Apple d'Apple France,
c'est Jean-Louis Gasset
et c'est lui qui a lancé BIOS.
On travaillait chez BIOS, Pierre Henno Richard, un ancien du groupe FTA qui faisait les routines 3D, a travaillé Eric Shepard qui était un ancien d'Apple également. Il y avait beaucoup d'anciens d'Apple chez BIOS, oui.
Je ne suis pas surpris. Donc actuellement, vous êtes plus PC que Mac ? C'est quoi qui te freine ?
Non, en fait, BIOS a fini par mourir, abandonné par les uns les autres, ce qui est un peu dommage, même si la tentative et la continuité plutôt avec Haiku OS, qui est vraiment de très bonne facture. Et bah, je suis revenu au Mac pour une raison assez simple, c'est que professionnellement, je travaille avec des PC. Et brancher mes Apple II avec les Macs, je trouvais ça plus facile, plus simple, et je suis également utilisateur des smartphones Apple. Et donc moi je suis le prototype parfait du gars qui veut pas avoir d'ennui et qui bénéficie de l'écosystème Apple du début jusqu'à la fin.
C'est plus simple pour les infections de virus aussi.
Ah oui, pour les infections de virus, et pour un mauvais utilisateur comme moi, c'est parfait. Voilà.
Ça, je veux bien croire. Qu'est-ce qui fait que tu te sois un petit peu remis sur Apple II, que tu as ressorti les machines de leur carton?
Alors, deux choses. La première, donc comme je faisais beaucoup de copies de logiciels pédagogiques à l'époque, au travers d'un groupe qui s'appelait HackerForce, où on importait des logiciels des États-Unis, on faisait taper la documentation par des amis et on distribuait le logiciel pédagogique à peu près tout le monde après derrière, contre rétribution financière. Je me suis rendu compte que au début des années 2000, milieu des années 2000, il n'y avait plus rien. Il y avait quelques émulateurs par-ci par-là, où c'est peut-être moi qui avais quitté un peu ce monde-là, mais je trouvais qu'il n'y avait plus rien, que sur la partie des protections ou copies de logiciels, il n'y avait strictement rien et aucune explication, et que le savoir risquait de disparaître. Donc ça rejoint un peu la partie du patrimoine et de cette sauvegarde-là. Autant des bons hommes avaient du matériel, mais si on n'a plus de la connaissance du fonctionnement du logiciel ou du fonctionnement du matériel, ça ne sert à rien d'avoir des bécanes. Donc en 2007, sur axiapple.org, je me suis mis à commenter la manière de faire des copies de sauvegarde des logiciels Apple II. Donc là, nous sommes en 2018 ou 2019, pardon, et j'en suis à mon 1000e crack de logiciel pédagogique avec explication que je mets toujours sur le site, parce que je trouve ça important de sauvegarder cette partie-là. Deuxième chose...
Comment y réagissent les éditeurs de l'époque ou les auteurs?
Pour l'instant, je n'ai pas eu de plainte, mais clairement, même si certains l'ont peut-être mis en mode logiciel du domaine public et encore, tout le monde a les droits dessus. Et il suffirait que quelqu'un me dise « Tu es bien gentil, tu retires ça, tu es dans l'illégalité. » Si on me demandait de retirer le logiciel, je le ferais. Voilà, même si les lois, les Patriot Act, les machins Act et machins sont là pour protéger un peu tout le monde, on est quand même en 2019. Je pense que plus personne ne s'intéresse à ça, à l'exception d'un ou deux éditeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines franchises des années 80 qui ont encore du succès en 2019 et dont les logiciels sont adaptés sur les iOS et autres Android.
Oui. Et c'est vendable dessus.
Oui.
Quand tu montres ta machine à une personne plus jeune qui n'a pas connu l'effervescence des années 80, y a quoi dans ce regard, de la compassion ou de la...
Oui, en deux mots, probablement. Non, il me regarde avec un air abattu en disant « Mais pauvre papa, qu'est-ce que tu fais ?» Non, il y a de tout, en fait. Majoritairement, en tout cas familialement, j'ai trois enfants qui sont absolument pas intéressés par ça. Le fonctionnement, je pense qu'ils seraient incapables d'allumer la machine.
Ils sont intéressés par quoi ? Craquer de la PS4 ?
Non, rien du tout. Utilisateurs, ce sont de simples utilisateurs. Ils ne sont pas intéressés par ce qu'il y a derrière. Ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Moi, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Mais ce qui est très intéressant, en fait, dans ce monde Apple II en 2019, c'est que ça permet quand même, depuis 20 ans, je me suis remis dedans maintenant, mais ça passe vite. Ce sont les rencontres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a permis à la maison, avec Olivier, là, qui est on n'habite pas très loin l'un de l'autre, de recevoir Andy Brandt, qui était le développeur d'AppleWorks version 4 et 5.
Ah ouais.
De recevoir Alex Lee, qui lui est le curateur d'un site qui s'appelle What is the Apple2JS. Rencontrer aussi Howard Feldman, qui était venu à la maison. Lui gère un site d'interactive fiction, etc. On a rencontré un nombre de personnes incalculables et des gens super curieux, très gentils. Et c'est un vrai bonheur.
Ça, je veux bien croire. Actuellement, donc, le fait qu'il y ait des gens qui viennent ici, on va avoir une cinquantaine de personnes, je crois, qui vont être présentes pendant ces 4 jours. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'à côté du logiciel, il y a une scène hardware qui est présente, qui fait beaucoup de choses. Alors que ça soit essayer d'émuler le lecteur de disquette pour que ça soit parce que des fois le support a vieilli et ne tient plus, ok. Mais on voit maintenant des cartes d'extension qui ajoutent le support des cartes mémoire moderne, donc du SSD. On peut mettre des SSD d'un tera dessus. Ok, tout ça, c'est quoi? C'est du confort ou ça tue complètement le plaisir d'attendre?
J'aime beaucoup la question parce qu'elle est très intéressante dans deux sens. Surtout pour moi qui aime bien faire justement de la sauvegarde du patrimoine. Moi, je suis très matériel vintage. J'ai besoin de la disquette. Et je pense, au contraire de ce que vous venez de dire, que la disquette dans 30 ans, elle sera encore lisible, alors que la clé USB qui est branchée sur le lecteur USB ou de carte SD ne sera plus lisible parce qu'on aura déjà atteint la limite du nombre de lectures et d'écritures. Mais bon, ça ne regarde que moi. Et comme je l'ai dit, je suis un softeux. Mmh. Je suis pas un bon en hard, donc je peux me tromper, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Et ça ne tue pas, ça facilite la vie. C'est un peu comme les émulateurs. On a l'accès ras du métal, comme on dit, qui est intéressant d'avoir la vraie machine avec les vraies cartes de l'époque. Mais c'est quand même un peu fatigant certaines fois. Sur les premiers Apple II, il y avait les flèches pour aller à gauche, à droite, mais pas pour aller en haut ni en bas, par exemple. Donc on était quand même très très contraints.
Ouais, ça, c'est vrai que ça
limité.
A été rajouté par l'Apple II, oui, ça a été un grand confort.
Mais oui, mais c'est exactement ça. Donc faire du vintage, raw, etc., c'est sympatoche, mais quand même le confort d'une carte SD, de pouvoir brancher sa clé USB et copier des images disques depuis son Mac, c'est quand même vachement plus simple qu'avant et c'est quand même, ça simplifie grandement la vie.
Du coup, comment on fait pour que les protections tournent encore quand on veut le logiciel dans son jus? Comment ça marche en fait finalement les archives disques? C'est pas de l'octet à l'octet, c'est plus subtil que ça, puisque c'est vrai qu'il y avait des protections qui jouaient sur on n'écrit pas une partie de la disquette comme ça, il y a du bruit blanc et on lit plusieurs fois pour vérifier que c'est bien un bruit blanc et tout le reste.
Ah, mais monsieur connaît les fake bits, je vois que monsieur connaît la chose.
Contrairement à toi, je n'ai pas avoué ce que j'ai fait.
Ouais, non, mais on va changer. Faire l'interview dans l'autre sens. Alors, c'est très amusant. Ce monde-là, ça rejoint un peu le hardware ou le software. Il y a longtemps, on ne se servait que d'un Apple II pour faire des copies d'Apple II. Il y avait des cartes qui existaient comme chez Central Point Software qui permettaient de faire des copies, mais qui étaient un peu limitées parce que ça c'était restreint quand même par les capacités des machines de l'époque. Un ami, John Morris, a pondu un produit qui s'appelle Apple Sauce, qui est un périphérique qui se branche d'un côté un disque 2 Apple ou un lecteur 3,5 d'Apple, et de l'autre un Mac moderne. Et au travers de son logiciel Apple Sauce, il récupère les flux, les variations de bits en fait, donc les transitions qui génèrent les 0 ou les 1, et sur une machine très rapide avec un chip au milieu, un Tinsy, qui est aussi encore beaucoup, à 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois plus rapide qu'un Apple 2, dont toutes les transitions sont prises. Et après, c'est la magie du logiciel pour arriver à remettre ça en ordre pour que ça représente une disquette Apple II. Donc toutes les variations, toutes les pistes, les types de protections, que ce soit des protections on-disk, c'est-à-dire j'altère le format de la disquette, ou off-disk, style je gère une protection par mot de passe, tout ça est sauvegardé et maintenu et dans un format qui s'appelle WOS et ça marche super bien.
WOS comme Steve Wozniak.
WOS comme Steve Wozniak, c'est un hommage à Steve Wozniak, effectivement.
On sait s'il les rallume de temps à autre, ces vieux Apple?
Je ne sais pas, mais je l'appellerai après, maintenant que j'ai son numéro de téléphone, et je vous dirai.
Je garantis pas qu'il marche encore. On voit maintenant donc pas mal de logiciels qui sortent. Tu as fait une rétrospective de l'actualité de cette année. Il y a notamment Fenarsinarsa, alias Cyril Lambin, que l'on a reçu d'ailleurs dans cette émission quand il était directeur technique de No Life, qui a sorti cette année une démo qui est à tomber par terre, Lightcomer, Qu'est-ce que tu recommanderais de regarder dans les travaux sortis récemment sur Apple II ?
Alors, première chose, moi je vois un culte à tous ces gars-là qui sont capables de sortir des démos, que ce soit Apple IIgs, Apple II, voire le reste. Avec la Nordlicht 2019, là on a des copains Apple IIgs qui en ont sorti une. J'ai vu des productions que je ne connaissais pas qui sont très impressionnantes. Alors quand je vois un gars inconnu qui sort un truc, en tout cas inconnu de moi, et qui sort une démo sur Apple II, alors que le gars il y a 6 mois ne l'avait jamais entendu parler, je trouve ça extraordinaire.
Avec des Starfield multi.
Ah non, mais c'est fabuleux ce qu'il a fait. Je trouve ça très beau. Et là, c'est entre Cyril et les travaux précédents là, de l'autre français Arnaud Coquière alias French Touch, ils ont poussé les limitations des bécanes et c'est l'exemple que je citais. Bon, les français ont toujours été réputés dans le monde de la démo Apple II, il y en a eu beaucoup sur la CS, FTA, etc. ou les GSA, même s'il y avait plutôt du Suisse, mais arriver quand même à ce que des démos qui fonctionnent très bien sur le matériel servent en fait des talons à ceux qui écrivent des émulateurs ou ceux qui écrivent ou qui créent des cartes vidéo comme la vie d'HD de John Brooks, que pour montrer que ça fonctionne bien, il branche ça sur un moniteur HDMI et il y a la démo de French Touch qui montre 3 écrans graphiques vidéo différents en même temps sur une page. C'est quand même la preuve que la qualité du soft, quoi. Pour répondre à la question, qu'est-ce que je recommanderais? La première chose que je recommanderais, c'est de jouer avec la machine et de commencer petit. Parce que on a eu des copains qui se sont dit, ou des connaissances qui se sont dit, on va faire une super démo Apple II. Soit, c'est bien. S'ils ont le temps, l'argent, etc., ils peuvent. Je préfère que les gens voient loin et fassent des choses. Mais c'est aussi bien de commencer petit quand on ne connaît absolument pas la machine. Commencer à afficher « bonjour » à l'écran, c'est déjà bien. Et après, aller plus loin, faire un beau jour qui cycle, qui tourne, etc. Donc, il faut se donner des marches quand même atteignables. Et après, ça génère un truc comme Cyril et qui nous fait un truc qui tourne avec des scrolls qui rebondissent, des Starfield, etc. C'est génial. Et finir par un rotozoom, alors qu'il y a 6 mois, à mon avis, sur Apple II, il n'était pas capable de faire un rotozoom. C'est fabuleux. C'est
la très belle... Je crois qu'il le précalcule. Hein,
c'est la belle ouvrage.
Il y a d'autres festivals Apple II à travers le monde ?
Oui, il y a d'autres festivals Apple II à travers le monde. Le plus intéressant, le plus beau, le meilleur, c'est le nôtre. merci à l'association Silesium et à la page de l'Apple de France sur Facebook de nous organiser ça. Et ça, c'est la 5e année.
Et dans le très beau cadre champêtre du Gers, faut le reconnaître.
Ah oui, c'est magnifique. Mais à part ça, il y en a 2 autres. Plus petit, c'est plus intimiste en Australie. Ça s'appelle les Wozka Fest ou Woz Fest, ou ça change de nom à chaque fois. Donc j'avoue que j'ai toujours pas compris, mais en tout cas, c'est un monsieur qui s'appelle Sean McNamara qui reçoit des amis, des Apple II enthousiastes en Australie 2 à 3 fois par an, et où les gens se retrouvent autour de leur Apple II, d'une bouteille de cidre, et l'ambiance est très sympa. Et il y a le grand événement annuel qui a lieu depuis, je crois, c'est la 30e année. Oui, c'est ça, ça doit faire 32 ans. Il y a, parce que ça fait 40 ans que l'Apple II existe, à Kansas City, Missouri.
Ah, donc, ils ont...
Non-stop, wow. Oui. Oui, non-stop. Et cet événement a lieu la deuxième ou troisième semaine du mois de juillet. Autour de, il y a une centaine de personnes chaque année qui y va. Il y a, comme ici, des différentes présentations, des ateliers, des différentes animations. Vous pouvez y venir pour vendre vos logiciels, vos livres, etc. Et c'est beaucoup d'échanges pendant une semaine. Vous dormez dans une université et quand vous dormez, voilà, vous pouvez dormir quasiment pas du tout.
Ça explique bien pas mal de choses.
Ouais. Et avec Olivier, on a eu la chance d'être invité en 2017, être les keynote speakers.
Ah ouais?
Ouais, non, c'est super sympa. On a été reçus comme des princes. C'était vraiment très, très beau. Et on a passé une semaine de rêve là-bas. Qu'on a rencontré tous ceux avec qui on avait échangé par mail ou peut-être pas par téléphone, mais en tout cas peut-être par autre écrit ou autre, ou par Facebook, et qu'on connaissait depuis des siècles et qu'on a enfin vu en vrai, quoi. C'était super sympa.
Antoine, merci beaucoup.
Merci Tascritch.